ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour de piste. Le tour de piste est une émission hebdomadaire qui survole les enjeux du 21e siècle. Sans mâcher mes mots, je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour de piste. Parce qu'être renseigné est le premier pas vers la liberté. Soyez des nôtres, le tour de piste débute à l'instant.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce tour de piste du mardi 24 novembre 2015. Je vous invite à un voyage d'une durée de 30 minutes nous permettant de survoler l'actualité des derniers jours. Voici donc notre plan de vol pour aujourd'hui. Je commenterai la neutralisation des différences, les propos de l'abbé Grosjean, le fait que des leaders religieux se mobilisent pour les réfugiés et les agressions sexuelles chez les plus vulnérables. En rafale, il sera question des sentences moins lourdes pour les hommes qui tuent leurs conjointes, du témoignage de trois ex-policières de la brigade des mœurs de Daesh, du premier bébé qui arrive plus tard qu'avant, de l'humour préventif et d'un parc d'attractions bibliques. Mesdames et messieurs, attachez bien votre ceinture, votre tour de piste débute à l'instant. Avant de procéder à des manœuvres de décollage, je vous invite à visiter ma page web au www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Vous y trouverez la majorité de mes interventions publiques écrites ou parlées. Je vous invite également à m'écrire via le courriel à l'adresse suivante. Le blogueur, acommercial.ericlantier.net, c'est le blogueur, acommercial.ericlantier.net. N'oubliez pas que blogueur ne prend qu'un G. Aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord commenter un segment de l'article de Mathieu Boccoté, L'échec de Babel. Oui, c'est l'échec de Babel qui a attiré mon attention. Et un passage particulier dans cet article qui a été publié dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, le 24 novembre 2015. Et voici ce que nous dit Mathieu Boccoté. Le métissage brutal des cultures provoque un retour de flamme. Quand on veut unifier l'humanité en neutralisant les différences, elles explosent. C'est l'histoire de la tour de Babel. Alors, c'est intéressant. Quand on veut unifier l'humanité en neutralisant les différences, elles explosent. Moi, je crois que c'est important et c'est vraiment pertinent ce qu'il dit parce que dans une société démocratique, c'est important que chaque individu et chaque communauté, chaque groupe puisse prendre part à cette démocratie-là. Évidemment, qu'est-ce qui va faire qu'une démocratie va se distinguer? Ce sont ses valeurs, son patrimoine. Et c'est important, justement, de garder dans la société québécoise des points d'ancrage de notre histoire, de notre patrimoine. Et je donne un exemple, et je vais écrire un article là-dessus. Les crèches de Noël. Vous savez que maintenant, au Québec, contrairement à ce qu'il y a 50 ans, où est-ce que la presque totalité de la population québécoise était catholique, était de foi catholique romaine, eh bien, aujourd'hui, c'est très différent. On a de plus en plus de gens qui s'identifient à l'islam. On a des protestants, il y a des bouddhistes, il y a des hindous et il y a différents groupes religieux qui ont émergé au fil des décennies. Mais il reste que néanmoins, depuis la Nouvelle-France, depuis que les colons sont déménagés, ont traversé l'Atlantique et sont venus s'installer en Nouvelle-France, eh bien, on met en valeur les crèches de Noël, soit sur les perrons, soit dans des lieux publics. Maintenant, il y a une grande question existentielle en disant, est-ce qu'on a le droit de le faire légalement et constitutionnellement, puisque là, on favorise une religion? Et moi, je me dis, le problème, ce n'est pas une question de loi, de législation, c'est une question de volonté politique et de courage. Dans la société québécoise, c'est important qu'on puisse mettre en valeur notre patrimoine. On ne doit pas essayer de plaire à tout le monde, de faire plaisir. Et ça ne veut pas dire d'exclure. Non. Par exemple, la communauté musulmane, si elle ne veut pas fêter Noël, eh bien, elle est libre de le faire. Si elle préfère fêter le Ramadan, qu'elle le fasse. Mais dans la culture québécoise, on identifie, par exemple, des cérémonies, des célébrations, des symboles, disant que ceci fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. Et c'est pour ça qu'on le laisse aller librement. C'est pour ça que ça a préséance sur d'autres symboles. Et c'est important qu'on n'essaye pas de justement essayer de créer une culture uniforme, une culture qui fait plaisir à tout le monde, mais d'avoir une culture justement qui laisse la place aux gens. Donc, si dans notre société, il y a des gens qui veulent jeûner et pratiquer le ramadan, bien, qu'on les laisse. Mais est-ce que ça veut dire maintenant qu'on doit intégrer ça, par exemple, au calendrier? Est-ce que ça veut dire qu'on doit en faire, par exemple, des journées fériées, etc.? Là, c'est différent. C'est pour ça que qu'est-ce qui devient le filtre? Parce qu'il y a toujours une tension hein, entre les droits individuels, les droits collectifs, etc. Mais cette tension-là, justement, c'est la valeur qu'on accorde à notre patrimoine, la valeur qu'on accorde, justement, à nos traditions. Et quand on dit tradition, patrimoine, comme je vous dis, on n'est pas obligé, on ne doit pas les imposer. Elles doivent simplement être là, être présentes et faire partie du panorama culturel. Et c'est pour ça que ça enchaîne bien avec le prochain article que je veux commenter, c'est qui a paru dans le Figaro. Ça l'a paru le 19 novembre dernier, donc il y a quelques jours. Et c'est un article qui s'intitule comme suit. « Moins de christianisme, plus de laïcisme. La pire réponse aux attentats. » Et donc, ce sont les propos de l'abbé Grosjean. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'abbé Grosjean? Il dit « Les barbares de l'État rassemblent dans une même haine notre culture, notre liberté, notre art de vivre, notre démocratie. Mais aussi, si nous prenons le temps de lire leurs revendications, la foi chrétienne qui est indissociable de l'histoire et de l'identité de notre pays. » Or, que propose ce document? Il fait référence au document qui a été déposé par l'Association des maires de France. Eh bien, alors, que propose ce document comme réponse à ces attaques islamistes? Parce que, justement, il met dans le contexte que les attaques islamiques sont comme un peu une guerre idéologique. Et donc, l'Association des maires de France dit non, un instant, là. Non, on devrait laïciser mur à mur. Puis ces histoires-là, là, des crèches, devant les édifices municipaux, ça ne devrait pas avoir lieu, ça ne devrait pas exister, on devrait interdire ça. Alors, que propose ce document comme réponse à ces attaques islamistes? Concrètement, s'il fallait résumer, ça tiendrait en quelques mots, moins de christianisme, plus de laïcisme. Ainsi, l'AMF veut faire disparaître une fois pour toutes les crèches de Noël dans tous les bâtiments publics. L'association invite les maires à plus de neutralité. L'AMF invite les élus dans leur action publique à s'abstenir de faire montre de leurs propres convictions religieuses ou philosophiques. Et ça, c'est un extrait d'un autre article du Figaro. S'il y a une crèche, ça va justement au-delà des croyances personnelles, ça renforce l'élément de culture. S'il y a une crèche, là, ce que je suis en train de dire, c'est que ça va au-delà des croyances personnelles. Parce que, écoutez bien, vous allez dire, non, t'es confus, Eric, aujourd'hui. Non, regardez bien. L'AMF, l'Association des maires de France, disent « Non, au nom de la laïcité, on doit retirer les crèches de devant les édifices municipaux. Les édifices municipaux doivent être neutres. » Maintenant, ça, ces membres de cette association-là, eux ne sont pas à l'aise ou confortables avec les crèches de Noël. Ça, c'est leur préférence personnelle, ils ne devraient pas y en avoir. Mais là, ils veulent l'imposer, alors que si la population, elle, n'est pas offusquée de ça, si pour des raisons, justement, de patrimoine, des raisons historiques, on le fait, si ça fait partie du patrimoine, si ça fait partie de la culture, pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi on ne permettrait pas ces choses-là? Pourquoi ces membres de cette association-là veulent imposer à toute la population, au nom du laïcisme, d'interdire une pratique qui est faite de bonne foi? C'est une imposition forcée, et c'est ça qui est... Et même, ils vont plus loin. Ils veulent interdire qu'un élu fasse un signe de croix ou toute référence à un sens spirituel, par exemple, un baptême de bateau ou une bénédiction de bâtiment. Ils vont loin, l'Association des maires de France. Alors, il y a un danger à ça, justement. Parce que il y a une mauvaise compréhension de la laïcité. La laïcité, ça veut dire que l'État n'est pas comme redevable à une religion ou à un groupe religieux. Mais il y a une différence entre le fait que, par exemple, un groupe religieux devient un lobby à laquelle l'État est asservi et de prendre note qu'au courant de l'histoire, il y a des pratiques qui se sont exercées et qui doivent se laisser aller. Pourquoi interdire une crèche? C'est un symbole. Oui, ça fait référence à des événements, historiques qui ont marqué l'histoire du christianisme. C'est clair que c'est identifié à Jésus-Christ. C'est clair qu'il y a une connotation religieuse derrière ça, puisque des groupes religieux vénèrent, adorent Jésus-Christ comme étant leur Dieu et Sauveur. Mais il ne faut pas voir la laïcité comme une négation du spirituel, mais une distinction du temporel et du spirituel. C'est ça que dit l'abbé Grosjean. Il dit « La vraie laïcité ne cherche pas à éradiquer la foi de la société, ni à la faire disparaître de l'espace public. » L'État est laïque, la société ne l'est pas. La vraie laïcité est le moyen de permettre à chacun de vivre sa foi ou sa non-croyance en paix avec les autres. L'AMF se rend coupable d'abus de pouvoir avec ses visées laïcistes assumées. Écoutez, c'est vraiment important. La vraie laïcité est le moyen de permettre à chacun de vivre sa foi ou sa non-croyance en paix avec les autres. Maintenant, c'est ça qui est tannant, parce que quand on veut imposer justement des préférences personnelles, on veut imposer à la population de ne pas présenter des crèches, eh bien, c'est quelque chose de vraiment injuste. Et comment je pourrais vous dire ça, qui n'a pas sa place? De toute façon, si vous lisez l'histoire, par exemple, de la France, quand est survenue justement la Révolution française, on s'est mis à interdire la propagation ou l'exposition des crèches sur la place publique. Qu'est-ce que ça a fait? Les gens dans leur maison sont mis à fabriquer des crèches et à avoir des crèches. Et à un moment donné, quelques décennies plus tard, c'est revenu. Ça prouve une chose, mesdames et messieurs. C'est qu'il y a une demande populaire pour ces crèches-là. Pourquoi? Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de la vie intégrante de la communauté, que ce soit de la communauté française ou que ce soit de la communauté québécoise. Et moi, je veux m'opposer à ce qu'on nous impose de ne pas exprimer ou de ne pas justement célébrer notre patrimoine. Et c'était quelque chose qui s'exerçait en France, l'exposition de crèches, mais ça a été exporté en Nouvelle-France. La Nouvelle-France, les Québécois qui se sont mis à bâtir, à défricher le territoire québécois, ont continué justement à mettre en œuvre, à exposer des crèches. C'est quelque chose qui a continué, qui fait partie de notre panorama. Alors, c'est vraiment important. Je vous invite à lire cet article-là parce que c'est vraiment riche et ça stimule énormément la réflexion. Je vois que le temps file, mais aux États-Unis, il y a des leaders religieux qui se sont mobilisés pour les réfugiés. Alors, on trouve ça dans le journal Metro. Et donc, des leaders des principaux groupes religieux aux États-Unis affirment qu'une peur irrationnelle a pris le dessus dans le débat sur l'accueil des réfugiés syriens au pays. On parle évidemment, quand il dit au pays, c'est aux États-Unis. Voici ce que continue à dire le journal Metro. Des représentants catholiques, juifs et protestants s'accordent pour dire que les contrôles de sécurité sont un aspect essentiel de l'accueil des réfugiés. Donc, en d'autres mots, il se dit oui, nous, justement, les Américains, eux, puisque ce sont des représentants religieux des États-Unis, ils disent, nous, les Américains, on doit les accueillir, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on les accueille, on doit faire des compromis avec la sécurité. L'article dit qu'environ 70 % des réfugiés admis aux États-Unis sont pris en charge par des groupes religieux. Donc, c'est quand même important. Donc, ils ne se prononcent pas en vain, ces gens-là. L'archevêque Thomas Wensky de Miami rappelle que la Floride a accueilli un grand nombre de réfugiés cubains au fil des ans. Ce serait donner raison aux terroristes si les Américains décidaient de fermer leurs frontières, croit-il. En d'autres mots, il y a une certaine capacité de gérer l'entrée des réfugiés. Et puis, ce qu'on va dire en terminant, les réfugiés sont déjà soumis à un contrôle de sécurité serré qui peut prendre jusqu'à 3 ans et qui inclut un filtrage biométrique et la prise d'empreintes digitales notamment. Certains élus demandent des contrôles encore plus rigoureux. Évidemment, avec les attentats qui sont survenus en France, c'est important d'être vigilant et c'est important justement de veiller à la sécurité, parce que la sécurité de la population, parce que justement les terroristes ne s'annoncent pas d'avance. Hein. Les terroristes, c'est des coups d'éclat et malheureusement, il y a des victimes, il y a des gens qui en payent le prix. Et c'est, oui, c'est important à la fois d'accueillir et c'est ça que j'aime de ce groupement, de ce groupe de gens, de religieux qui se sont mobilisés. C'est qu'une part, on doit ouvrir nos bras grands ouverts pour les réfugiés, mais en même temps, s'assurer qu'il n'y a pas de compromis pour la sécurité. Et je pense que l'ensemble de la population s'entend là-dessus, en tout cas, du moins, dès que la population, spécialement ici au Canada, va être rassurée qu'il n'y a pas de compromis sur la sécurité, puis on ne fera pas juste entrer les Syriens d'une manière rapide, mais qu'on va s'assurer que la sécurité est un élément essentiel et primordial, eh bien, c'est clair que ça va rassurer la population. Maintenant, est-ce que même si on renforce la sécurité, est-ce que c'est sans risque? Dans la vie, ça n'existe pas, ça, un sans risque. Il y a toujours un risque dans quoi que ce soit. Maintenant, c'est clair que c'est assez difficile de lutter contre le terrorisme. Évidemment, je crois que nos autorités font un excellent travail, les forces policières, les forces de l'ordre, l'armée, tous les groupes qui sont reliés à justement faire de la prévention font un excellent travail, mais est-ce que ça garantit qu'il n'y aura jamais de fuite? Ça, on ne pourra jamais le garantir, c'est clair. Mais maintenant, il y a aussi l'envers de la médaille. S'il y a des gens qui ont quitté leur pays, qui vivent dans des catastrophes, qui ont perdu leur maison, que leur maison a été bombardée, et ils n'y ont plus rien dans la vie, ils ont leurs femmes et leurs enfants, puis ils s'en viennent avec des bateaux de fortune, ils s'en viennent à pied, eh bien, évidemment, on a un rôle à jouer, nous, ici. Et pourvu que ça soit fait avec sagesse. Il n'y a pas seulement des victimes du terrorisme sur la planète, il y a des victimes d'agressions sexuelles. Et moi, ce qui me brise le cœur, d'une part déjà, être victime d'agressions sexuelles, c'est tellement déchirant. Mais ce qui me brise le cœur, et ça a été écrit sur le journal Le Devoir cette semaine, on en a pas, et on l'a même vu aujourd'hui, on en parle encore aujourd'hui, ce sont les agressions sexuelles chez les plus vulnérables. On parlait en 2006, savez-vous quoi? On parlait en 2006 de 40% des femmes ayant un handicap physique vivront au moins une agression sexuelle au cours de leur vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? La moitié des personnes ayant une déficience intellectuelle ont été agressées. Le journal Le Devoir nous dit « Les conséquences de ces agressions chez les personnes atteintes de déficience intellectuelle sont immenses. Environ la moitié des personnes ayant une déficience intellectuelle ont été agressées sexuellement à une ou à plusieurs reprises dans leur vie. Une réalité qui fait mal, un tabou que vient mettre en lumière la première recherche réalisée au Canada sur ce sujet trop souvent occulté. » En France, 4 femmes handicapées sur 5 subissent des violences sexuelles, physiques ou psychologiques, souvent dans le huis clos du domicile ou dans des institutions. Wow, c'est quand même quelque chose, hein? Et donc, en France, selon les recherches, eh bien, c'est quelque chose d'encore plus grave. Et c'est difficile parce que, au niveau de la communication, au niveau de la transmission des émotions, au niveau de la dénonciation des gens qui ont des déficiences intellectuelles, par exemple, et les gens les plus vulnérables. Malheureusement, ce sont les proies les plus faciles pour les agresseurs. Mais combien, moi, ça me brise le cœur de voir ça. Déjà, en partant, qu'un agresseur le fasse sur quelqu'un qui est fonctionnel, disons-le ainsi, c'est déjà quelque chose de grave. Mais c'est comme, en bon québécois, une coche encore plus grave de le faire à quelqu'un de vulnérable. C'est tellement triste. Et surtout que quand ça se fait dans le domicile de la personne, quand c'est des gens qui sont proches qui le font. Et c'est un fléau qui ne cesse de grandir. Et puis, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir besoin d'aide, qui vont avoir besoin de soins. Et quel genre de société ça produit? Et c'est pour ça que moi, je vais attirer votre attention parce que je peux vous dire personnellement, je me sens tellement, comment je pourrais dire ça? C'est tellement gros c'est tellement un gros ballon. Je me dis, comment on va y arriver? Et je peux juste rendre grâce à Dieu de ce que je n'ai pas passé par là. Et merci et félicitations à tous ceux qui s'investissent, qui donnent de leur temps, de leur énergie, que ce soit dans le cadre de leur travail ou sous forme de bénévolat, pour venir en aide, pour venir consoler, pour venir prendre soin de ces gens vulnérables. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse, mais qui me brise le cœur. En rafale, je vois que le temps file. Je ne commenterai pas très longuement, mais j'étais vraiment estomaqué de voir cette semaine que les hommes qui tuent leur conjointe hip-hop de peine plus légère. Vous pourrez voir ça sur le site du 98.5fm.ca dans la section nationale. Moi, ça me dépasse. Alors, trois ex-policiers de la brigade des mœurs de Daesh, donc l'État islamique, expriment leur témoignage dans madame.lefigaro.fr. Vous pourrez lire ça également. Un autre article intéressant, c'est le premier bébé. Souvent arrive chez les femmes qui ont 35 ans, alors qu'il y a quelques années, c'était les femmes qui avaient 25 ans. On commençait à avoir en moyenne là, leur premier enfant à 25 ans, mais maintenant, on parle de 35 ans, c'est de plus en plus de femmes. Et selon les chiffres, et voici ce que nous dit madame.lefigaro, selon les chiffres de l'Office for National Statistics, relayé par The Guardian, les bébés issus de mères de plus de 35 ans représentent 21% des premiers nouveau-nés en Angleterre et au Pays de Galles, contre 20% pour les femmes de moins de 25 ans. Et ça, c'est bon. C'est pas chez nous, mais il y a une tendance qui se maintient chez nous ici. Et donc, ils vont dire à titre comparatif, en 1983, le nombre de femmes à connaître leur première grossesse après 35 ans était de 50 000 contre tout près de 250 000 femmes de moins de 25 ans. Alors, c'est intéressant, je vous invite à lire ça parce que ça nous montre que les temps ont changé. On n'est plus en 1983 et ça fait déjà plus de 30 ans, ça, 1983. Les temps ont changé, les mœurs ont changé, les valeurs ont changé, notre société a changé. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir des plateformes comme le Tour de Piste, comme le Tour d'Horizon, qui est diffusé au 92,7 FM également, que j'anime du lundi au vendredi, pour pouvoir donner un autre son de cloche sur les valeurs, pour nous sensibiliser à ce qui se passe dans ce monde, mais dans une autre perspective. Pour entendre les choses sous un autre angle, parce que dans la vie, on peut observer plusieurs éléments sous différents angles. Et c'est important que cette diversité d'angles puisse être diffusée, que ce soit à l'écrit, que ce soit vocalement, pour qu'on puisse réfléchir et pas être emprisonné, embrigadé dans un seul système de pensée. Il y a une chose qui est intéressante. Eh bien, savez-vous qu'est-ce que ça produit, l'humour? Eh bien, ça ralentit ou ça nous prévient de faire de la démence. L'humour défaillant, signe de démence. Donc, ce que santé.lefigaro.fr nous ont démontré dans un article du 23 novembre dernier, donc d'hier. Donc, lorsque il y a des signes de défaillance, on peut repérer qu'il y a eu un signe de démence, par exemple, mais on peut repérer qu'il y a un humour qui est défaillant. Donc, plus qu'on apprend à rire, plus qu'on s'amuse, eh bien, ça peut justement ralentir ou neutraliser le processus de démence. Alors, ça vaut la peine d'être en bonne compagnie, de s'amuser et de rire un peu. Un dernier article, j'aimerais attirer votre attention, c'est un parc d'attractions biblique. Oui, un parc d'attractions biblique va voir le jour aux États-Unis prochainement. Et donc, c'est immobilier.lefigaro.fr. Vous avez un article là-dessus qui est intéressant. Et même, il y a une vidéo qui est jointe à l'article. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est installé aux États-Unis, ce parc à thème créationniste doit ouvrir ses portes en juillet prochain. Il accueillera notamment une arche de Noé de 155 mètres de longueur sur 24 mètres de haut avec une charpente en bois. À deux pas de la ville de Williamstown, dans le Kentucky, le chantier de l'Arche de Noé va bon train. Cette immense bâtisse de 150 mètres de long sur 24 mètres de haut et son impressionnante charpente en ferait, selon ses concepteurs, la plus grande structure à ressature de bois du pays. C'est incroyable, ça. Et donc, à ce moment-là, un parc d'attractions qui est biblique, qui est conçu par des chrétiens. Et on s'attend, et moi, je trouve ça incroyable, je ne sais pas si c'est des chiffres qui sont trop, comment je pourrais vous dire ça, audacieux, mais on s'attend jusqu'à 2 millions de visiteurs l'an prochain. Et donc, c'est incroyable. Et donc, le bâtiment est construit par Troyer Group, une entreprise implantée dans l'Indiana. Et puis, ils vont s'inspirer justement des récits de la Bible pour bâtir cette arche-là. Et donc, il n'y aura pas seulement l'Arche de Noé, puisque ça va être un parc d'attractions. Il va y avoir des jeux pour les enfants. Ça va être justement un parc d'attractions qui va attirer la communauté chrétienne et certainement, des gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens, il va certainement y avoir des curieux et des gens qui vont tout simplement vouloir s'amuser puis voir autre chose. Et encore une fois, c'est important qu'il y ait des alternatives sur tous les plans, même sur le plan scientifique. Je sais qu'on entend souvent des gens se moquer comme si, bon, les créationnistes, ça n'a pas de bon sens ce qu'ils vont dire. Mais savez-vous, parmi les créationnistes, là, il y a des gens très sérieux qui ont écrit des articles très sérieux, qui ont analysé du point de vue scientifique des éléments, par exemple, par rapport à l'âge de la Terre, par rapport à des phénomènes qui se sont passés sur la planète. Ce ne sont pas juste des parce qu'ils ont lu ça dans la Bible. Ce sont des scientifiques qui se sont arrêtés, qui se sont penchés, puis ont dit « Attends une minute, est-ce qu'on peut remettre en question certains dogmes de la science pour aller plus loin. » Et savez-vous quoi? La science a toujours avancé quand on a remis en question ce qui avait été connu dans le passé pour aller plus loin. C'est quand on se met à dire « Attends, on s'en va dans une trajectoire, mais au début, la trajectoire peut être bonne, puis à un moment donné, on la suit, puis à un moment donné, on déraille. » Et ça prend des gens qui vont dire « Oh, un instant, on pensait comme ça, mais... » Si on regardait ça d'un autre angle, et c'est comme ça justement qu'il y a une vraie, une saine évolution. Alors, moi, je suis d'avis à ce que les scientifiques puissent débattre entre eux sur les questions que vont apporter les créationnistes. Et à ce moment-là, c'est important. Mais il faut dire aussi que ce parc d'attractions, et là, a un but bien précis, c'est d'amuser les jeunes. Je vois que le temps avance, ça fait 2-3 fois que je vous le dis durant l'émission, mais là, l'émission s'achève. Donc, avant qu'on se quitte, j'aimerais vous inviter à visiter ma page personnelle. Vous allez trouver tous les liens qui vont vous diriger vers les réseaux sociaux sur lesquels je m'exprime, ainsi que les conférences que j'anime et les articles que je publie. Mon prochain article s'intitule « L'expression culturelle transcende la préférence personnelle ». Et c'est un article qui va justement commenter les propos de l'abbé Grosjean concernant les crèches de Noël. Est-ce qu'elles ont leur place devant les hôtels de ville, les crèches de Noël? Et l'État n'a pas à imposer, justement, n'a pas à imposer des lois qui vont restreindre l'expression de notre patrimoine. Ça fait partie de notre patrimoine. Chanter des chants de Noël, avoir des crèches de Noël, avoir des sapins de Noël, faire des spectacles de Noël. Eh bien, il y a plein de gens, par exemple, moi, j'ai participé à des spectacles de Noël et j'ai vu plein de gens qui n'étaient pas nécessairement des membres de notre communauté chrétienne qui ont assisté à ces spectacles de Noël-là et ils ont apprécié. Et combien de gens ont trouvé, par exemple, que ça agrémente un décor lorsqu'il y a des lumières de Noël, puis lorsqu'il y a des crèches, quand ils sont bien faits, ils sont bien bâtis, ça crée une atmosphère et ça fait partie, si on veut, entre guillemets, de la féerie de Noël. Alors, j'en parle dans mon prochain article. Alors, n'oubliez pas aussi le Tour d'horizon qui est diffusé sur le 92,7 FM du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05. Et toutes les capsules de 15 minutes sont disponibles sur le ericlantier.net, www.ericlantier.net. Je vous invite à consulter également ma page publique Facebook. J'ai commenté sur Facebook aujourd'hui l'article de Richard Martineau, « La gauche expliquée à mon fils », et celui de J-Jacques Sanson, « Le PQ a mal vieilli ». Donc, vous pouvez avoir accès à ma page publique Facebook en allant sur mon site web ericlantier.net, c'est sur le côté gauche de l'écran. Si vous voulez commenter et discuter avec moi, eh bien, n'oubliez pas, L-E-B-L-O-G-U-E-U-R, donc c'est le blogueur avec seulement un G, le blogueur à commercial ericlantier.net. En terminant, je vous invite le mardi 1er décembre à 14h30 sur les ondes de WCHP, le 760 AM, pour un autre tour de piste. Je vous dis donc à la semaine prochaine.
Merci d'avoir pris part à ce tour de piste. Le Tour de piste existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur, à commercial, ericlantier.net. Le Tour de piste est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer à un autre Tour de piste. Au revoir!